Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Il y a des personnes qui, bien qu'ayant une vie tout à fait normale, se sentent brûlées de grands désirs, celui notamment de changer le monde, de venir au secours des malheureux, de France et d'ailleurs, des hommes et des femmes qui ont l'impression d'avoir un cœur trop large pour leur vie. Et si ces personnes avaient en fait des âmes de consacrer, si Dieu ne les incitait pas à croire par là qu'ils peuvent, comme disait Sainte Thérèse de Lisieux, faire bouger le monde par l'effet de levier qu'est la prière. Cette émission Vivante Église ce matin donc sur le thème « Que sont les monastères invisibles ?» Vaste question avec autour du plateau Martial Coudou qui est diacre du diocèse de Toulon et auteur d'un ouvrage intitulé « Le monastère invisible de Jean-Paul II » paru aux éditions Salvator. Bonjour.
Bonjour Monsieur Emmanuel, bonjour à vous tous.
Et Alain Noël qui nous rejoindra un petit peu plus tard dans l'émission, qui est éditeur, laïc consacré et responsable de la Fraternité Sainte-Croix, autre monastère invisible. On va commencer avec vous, donc Martial Coudou, en me plongeant dans votre livre, qui parle donc de cette intuition divine que vous avez eue de ce monastère invisible. Avant, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu plus de vous, parce que toutes les occasions sont bonnes d'avoir des beaux témoignages à cette antenne. D'ailleurs, il y a quelques notes biographiques à la fin de votre ouvrage, et vous vous présentez, comme ça on verra un petit peu comment les choses se sont construites. Vous êtes donc originaire du Var, vous êtes boulanger et en 1983, si je ne me trompe pas, vous avez décidé de répondre à un appel intérieur, à aller à Medjugorje et là-bas vous êtes converti. Est-ce que vous pouvez nous raconter cet épisode de votre vie ?
Oui, bien sûr, avec plaisir. C'est en 1984, nous étions mariés, mon épouse et moi, depuis 2 années et en 84... Effectivement, un appel du cœur me propose de manière très forte d'aller à Medjugorje. C'est un endroit que je connaissais par le dire de mes parents qui étaient allés déjà depuis plusieurs années, mais c'était un sujet qui ne me passionnait pas, je n'étais pas du tout pressé pour y aller. Et puis cela, avec cet appel du cœur, effectivement, c'était très fort, il a fallu que j'y aille et c'est d'ailleurs assez drôle parce que il y a eu une lutte pour y aller et c'est assez amusant parce que 3 fois je suis descendu du train, je suis remonté dans le train en me demandant ce que j'allais faire là-bas, puis finalement l'appel très fort a fait que j'y suis allé.
Faut-il préciser d'abord ce qu'est Medjugorje. Donc c'est un lieu supposé d'apparition qui est en tout cas reconnu comme un sanctuaire. C'est en Bosnie-Herzégovine, en ex-Yougoslavie, où la Vierge apparaîtrait depuis maintenant presque 30 ans, si je ne me trompe pas,
Depuis
80, à 6 enfants devenus adultes et je crois l'un ou l'autre aurait encore des apparitions. C'est en tout cas un grand lieu de dévotion mariale et donc un sanctuaire chrétien. Alors donc vous êtes arrivé là-bas, fruit d'un combat, et que s'est-il passé sur place? Vous racontez qu'au début vous promeniez avec le groupe de pèlerins avec un casque de Walkman sur la tête et que ça faisait sourire vos congénères.
Ah oui, dans le bus pendant que mes voisines et mes voisins d'un certain âge d'ailleurs priaient et méditaient le rosaire. Moi j'écoutais dans un Walkman de la musique rock, j'écoutais de la musique et parfois je m'étais un peu fort parce qu'ils priaient trop fort à côté de moi, du coup je n'entendais pas bien. Et c'est amusant parce que j'entends encore ma petite voisine, une dame âgée qui disait « Eh ben dis donc, lui il s'est trompé d'adresse, c'est ailleurs qu'il aurait dû aller mais pas à Medjugorje ». Bon voilà, le penser surtout au mot discothèque, mais voilà, et c'est amusant. Mais je suis arrivé là-bas sur les lieux de Medjugorje et très rapidement on a formé des petits groupes. Je suis rentré dans l'église avec le groupe de mes parents qui étaient là, qui étaient du voyage. Et quand nous sommes entrés dans la sacristie, la première chapelle des apparitions, le premier lieu d'apparition en 81, eh bien c'est là, dans cette sacristie, que tout a démarré, où j'ai été saisi par une chaleur très très forte qui m'a mis en présence d'un amour que je ne connaissais pas. Et j'ai senti une main se poser sur mon épaule gauche, Je regarde à côté de moi, je ne vois personne, et cette main, qui était à la fois forte et très douce, m'a fait faire demi-tour, sortir de cette chapelle des apparitions, de la sacristie donc, et traverser toute l'église dans laquelle il n'y avait aucun siège à l'époque, parce qu'il y avait tellement de monde le soir, ils avaient retiré tous les sièges, et je sors de l'église, il n'y avait pas d'office à ce moment-là, et sur le parvis de l'église, il y avait un homme qui regardait vers l'extérieur, que je ne connaissais pas, un homme civil. Cette main me conduit jusqu'à lui, qui me tournait donc le dos, et quand j'arrive à sa hauteur, eh bien, ma main droite, je la lève, mais presque malgré moi, je la pose sur son épaule gauche, et je lui dis « Mon père, il faut que vous me confessiez ». Et là, à l'instant même, je me dis « Bon sang, est-ce qu'il est prêtre, au fait ?» Il se retourne, et je vois qu'il a une petite croix sur le col, et très souriant, très gentil, il me dit « Oui, bien sûr, venez ». Et là, je réalise que je ne sais pas me confesser. Je lui dis « Mais mon père, vous savez, je ne sais pas comment faire. Ça fait si longtemps que je ne me suis pas confessé sérieusement. » Il me dit « Ne vous inquiétez pas, on a l'habitude ici, c'est pour tout le monde pareil. » Et on va à l'extérieur, il s'assoit sur un petit tabouret contre l'un des piliers de l'église extérieure et je me mets en face de lui et il m'aide. Pendant une heure et demie, il va me poser des questions, il va me faire prendre conscience de beaucoup de choses, et donc je vois que dans ma vie, il y a des lumières, mais il y a aussi des zones sombres, et la confession se passe donc très simplement, très bien, et là, il me donne l'absolution, il me dit « Maintenant, vous allez tirer un trait sur votre passé, et il ne s'agit pas de l'oublier, le passé, mais vous allez naître de nouveau, et je vais offrir au Seigneur la joie de vous pardonner tous vos péchés. » Et voilà qui me donne l'absolution. Et aussitôt après avoir donné l'absolution, il s'approche de moi en me prenant par les épaules pour me poser un baiser sur la joue. Et à cet instant-là, au moment où il s'approche, je vois en lui, dans son visage, le visage du Christ. Et j'ai su à cet instant-là que c'était le Christ qui m'embrassait et dans sa miséricorde infinie. Et je peux dire que c'est vraiment le moment précis où je suis, on peut le dire, c'est un terme, je suis tombé amoureux du Christ à cet instant-là.
Est-ce que vous pourriez un tout petit peu plus qualifier, alors ça semble difficile parce que dans votre livre, à propos donc de cette chaleur qui pénètre votre cœur, vous avez ces mots, c'est fou car je ne trouve toujours pas de qualificatif pour exprimer l'intensité de l'amour qu'il y avait dans mon cœur. Ce n'est pas moi qui aimais, mais je me sentais aimé. On a à cette antenne, comme dans bien d'autres médias chrétiens, des témoignages de temps à autre, enfin assez souvent, de personnes comme ça qui ont reçu une grâce spéciale. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui parfois cheminent dans la foi un peu plus dans la nuit et qui aimeraient en fait avoir cette expérience. Comment vous qualifieriez, même si les mots vous manquent, l'amour que vous avez ressenti à ce moment-là?
Ah, écoutez, c'est vrai que c'est quelque chose d'inqualifiable parce que c'est plus fort que ce que nous pouvons imaginer. C'est un amour, on est saisi par l'amour. Mais en fait, moi j'étais comme absent sur le coup, j'étais comme absent à cet amour-là. C'est cet amour-là qui m'investit. Et en m'investissant petit à petit, eh bien... Je sens bien qu'il se passe quelque chose, je suis rempli de cet amour, je suis débordant de cet amour, et c'est au moment du baiser du Christ à travers le prêtre que j'ai compris quel était cet amour. Parce que le problème, c'est qu'à ce moment-là, je ne savais pas de quel amour il s'agissait, mais c'était si bon, si profond, si et en même temps si intime. Voilà. C'est quelque chose de... C'est difficile à exprimer parce que c'est trop beau pour l'exprimer.
Alors, Martial Coudou, je propose qu'on revienne. Merci hein, beaucoup de ce témoignage donc, qui fait partie de votre ouvrage et qui éclaire un petit peu la mission qui est la vôtre après. Mission donc, que vous avez, semble-t-il, reçue assez directement de Dieu. Donc, vous êtes l'auteur donc, je rappelle, de ce livre, Le Monastère Invisible de Jean-Paul II, paru aux éditions Salvator. Vous êtes diacre donc dans le diocèse de Toulon. Monseigneur Ray, évêque de Fréjus-Toulon, a préfacé votre ouvrage. Vous racontez dans ce livre que vous avez eu si je ne me trompe pas, après la mort de Jean-Paul II, l'intuition d'un monastère invisible. Une intuition, semble-t-il, voilà, enfin une intervention divine. Vous avez reçu une image. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots avant qu'on détaille, quelques mots de cette intuition et la manière dont vous avez après discerné cette intuition divine?
Oui, bien sûr. Nous savons que Jean-Paul II est décédé le 2 avril 2005 et c'était le soir du 8 avril 2005. C'était donc le jour des funérailles de Jean-Paul II. Nous avons suivi des funérailles en direct sur grand écran parce que tout le monde n'a pas pu aller à Rome ce jour-là. Et nous étions tous très tristes d'avoir perdu un pape que nous aimions tant. Et nous sommes la génération Jean-Paul II et c'est vrai que nous avons tous été marqués par ce pape. Et ce soir-là, 8 avril 2005, je suis dans l'oratoire de l'avènement puisque je suis diacre permanent. J'ai un endroit pour prier, un beau lieu de prière chez moi et avec le Saint-Sacrement et j'avais l'habitude de toujours me retrouver le soir pour ouvrir le tabernacle et me mettre en présence de Jésus dans le Saint-Sacrement. Et là, je n'avais pas de mots parce que j'étais encore sous la tristesse du départ de notre Saint-Pape, mais en même temps, j'avais dans le cœur une joie parce que je me disais, il ne peut être qu'au ciel et lui, il est certainement très heureux. Donc voilà, j'étais juste là, présent à la présence et j'avais pas de mots à prononcer pour Jésus parce que je ne savais pas quoi lui dire, c'était comme cela, j'étais présent. Et c'est là que tout d'un coup, je vois dans la grande hostie, vous savez, quand on fixe un objet, ça peut être un tableau au mur, si on le fixe longuement, on voit ce tableau qui s'approche et qui rentre en nous. Et pour le Saint-Sacrement, l'hostie, quand on fixe l'hostie, eh bien c'est exactement la même chose. En la fixant bien, profondément, on la voit s'approcher, s'agrandir, comme si on entrait dans l'hostie. Et cet instant-là, j'ai vu dans l'hostie, dans le cœur de Jésus, bon, ça c'est pas un scoop, puisque nous sommes tous présents dans le cœur de Jésus, il n'y a rien d'extraordinaire à ça, et j'ai vu dans le cœur de Jésus le Jean-Paul II, le buste de Jean-Paul II, le visage d'un père, d'un papy, de quelqu'un qui a à la fois de l'autorité, qui est souriant, qui est à la fois très humble et très riche en tout. C'est quelqu'un à qui l'on fait de suite confiance. Et je l'ai vu tout souriant, comme un relief sortir de l'hostie et rentrer dans mon cœur, et j'étais saisi par sa présence. Et j'étais habité par lui.
Ensuite, vous avez reçu cette image. Est-ce que vous pouvez décrire, peut-être pas dans le détail, hein, mais à gros traits, cette image? Et puis, je vous repose la question, comment vous avez fait pour discerner que cette intuition était juste? Parce que, voilà, on peut avoir des intuitions spirituelles, mais il faut quand même vérifier ça et être accompagné.
Bien sûr, c'est très important ce que vous dites là. Et déjà, le visage de Jean-Paul II était le visage d'un homme d'un certain âge, mais il n'était pas dans la souffrance comme on l'a connu les dernières années. Il était le visage d'un papy, d'un grand-père, de quelqu'un, d'un sage, voilà. D'un sage souriant avec de l'humour et de l'autorité en même temps. Voilà, c'était très bon.
Martial, excusez-moi, hein, je repose ma question comme je vois que le temps avance et qu'on se voit pas. Cette autre image que vous avez eue du monastère invisible, dites-nous quelques mots dessus et puis après on reviendra dans le détail. Hein. Ne nous la décrivez pas dans le message, mais dites-nous quelques mots de cette intuition qui vous a été donnée.
Oui, alors à cet instant-là, j'ai reçu cette image dans le cœur. C'est les yeux du cœur qui voient, n'est-ce pas? Et c'est l'image d'une poutre, d'une grande poutre de dimension infinie, poutre horizontale, Alpha et Oméga, Jésus, commencement et fin de tout. C'est sur cette poutre marchent toutes les familles de la terre. Et cette poutre est soutenue en son centre, au milieu, donc dessous, par la pointe du clocher de l'église qui elle-même est traversée par une autre poutre qui monte vers le ciel. Et l'Alpha et l'Oméga, donc au-dessus, sont reliés par un arc-en-ciel. Et à l'endroit où la poutre verticale croise l'arc-en-ciel, eh bien, il y a une colombe qui représente l'Esprit Saint. Il y a un grand cœur avec trois flammes à l'intérieur qui sont les flammes de la Sainte Trinité et en dessous les tables de la loi. Mais cette poutre était en mouvement, Voilà, c'était une image vraiment assez extraordinaire et très catéchétique. Cette poutre était en mouvement, et elle balançait, puisqu'elle repose sur la pointe du clocher de l'église, en son centre par-dessous, et bien elle balançait entre le bien et le mal, à tel point que toutes les familles de la terre ne tenaient plus droit. Dès qu'elle se relevait, elle retombait. Tout le monde était à terre. Donc, dans le discernement instantané, il est compréhensible qu'il faut des piliers de part et d'autre de cette poutre pour rétablir cet équilibre. Et c'est là que je vois, sous l'extrême gauche, la partie alpha, un pilier s'installer qui est composé des petits-enfants, des saints innocents et des martyrs. Qui sont-ils? Eh bien, il s'agit de tous les petits-enfants qui sont des cœurs purs, ce que nous pouvons avoir à l'éveil de la foi, et qui sont de précieux intercesseurs justement parce qu'ils sont des cœurs purs. Mais il y a aussi tous ces petits-enfants partis trop tôt, pour toutes les raisons que nous connaissons, comme par exemple un accident, une fausse couche, et pour d'autres raisons, mais aussi il y a tous les enfants victimes de ce génocide qui est le plus grand de tous les génocides de tous les temps, qui est celui de l'avortement. Voilà, voilà ce pilier, et ces petits-enfants tiennent à la main une clé. Et je vois à la droite, sous la partie oméga, un autre pilier se former et se déposer sous la partie extrême droite de la poutre, et ce pilier composé de tout le corps souffrant du Christ et des âmes du purgatoire. Alors, c'est très intéressant parce que on voit, c'est symbolisé par un prisonnier à genoux dans sa cellule et une personne assise sur une chaise roulante. Et l'on voit que la demi-roue de la chaise roulante, la cloison de la prison et la fenêtre de la prison forment aussi une clé. Et il y a les âmes du purgatoire qui sont au-dessus membres de ce pilier, qui soutiennent ce pilier.
Alors, Martial Coudou, comment avez-vous fait, je vais y arriver, pour discerner cette intuition spirituelle? Pardon, je vous repose encore une fois la question, mais on se dit que voilà, c'est une image très forte, très claire. Vous avez dû vous-même être très surpris ou trembler un petit peu devant cette image. Rapidement, quels ont été les critères de discernement entre le moment où vous avez reçu cette image et puis vous êtes lancé dans cette aventure du monastère invisible qu'on va détailler après?
Je me dépassais complètement et je me posais vraiment la question de savoir ce qui m'arrivait, si mon imagination n'était pas en train de défaillir aussi. Mais c'était tellement fort que cette image demeurait en moi et le discernement petit à petit grandissait en moi, mais j'avais quand même besoin de m'assurer de cela et de manière collégiale dans l'Église, parce que ça c'est important et je crois que c'est là la marque du Saint-Esprit. D'abord j'ai prié plusieurs soirées et j'en demandais au Seigneur, « Seigneur, si ça vient de toi, c'est très bien, fais en sorte que demain matin, en me réveillant, je sois confirmé dans cette intuition. Et si ça ne vient pas de toi, fais en sorte que j'oublie cette intuition. » Et comme cette intuition se confirmait de jour en jour, eh bien, j'ai écrit tout ce que j'avais reçu, tout ce que j'ai vu dans le détail, et je suis allé d'abord chez les petites sœurs de Bethléem, dans un monastère, au monastère de la Verne, et je leur ai confié, parce que je sais qu'elles sont crédibles, qu'elles sont des contemplatives, donc je leur ai dit, voilà, j'ai reçu cette intuition, je vous la livre, je vous la laisse, vous prenez le temps que vous voulez, et je vous laisse discerner devant le Seigneur cette intuition, et c'est vous qui me donnerez la réponse.
Alors...
Et je suis allé voir également la fraternité Marie-Reine Immaculée ailleurs, et je leur ai posé la même question, et je leur ai dit, vous me rendrez la réponse quand vous voudrez.
Alors pardon, Martial Coudou, excusez-moi, je vois le temps qui passe. Alors vous parlez d'abondance de cœur, mais voilà, l'émission court et je veux quand même qu'on avance. Donc on imagine que, en tout cas, ça a été correctement discerné, sinon Monseigneur Dominique Ray, voilà, évêque de Fréjus-Toulon, n'aurait pas préfacé votre ouvrage. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu le succès que rencontre ce monastère invisible, puisque donc est proposé à toutes les personnes isolées, souffrantes, malades, ou les parents qui ont perdu des enfants, de s'associer par la prière donc à cette grande œuvre d'intercession, si j'ai bien compris. Quel succès rencontre ce monastère? Je ne sais pas combien de personnes se sont associées à ce monastère et comment est-ce qu'on s'y prend pour s'associer à ce monastère invisible?
Oui, alors il faut d'abord savoir que ce monastère, le monastère invisible de Jean-Paul II, c'est d'abord un état d'esprit. C'est cela d'abord. Et c'est ce que vit toute l'Église et c'est ce qu'enseigne l'Église depuis qu'elle existe. Saint Paul enseigne cela continuellement. Et il a vécu cela. Ceci dit, il faut savoir que toutes les personnes, tous les plus petits et les plus faibles, et c'est le discernement de l'intuition, que tous ces plus petits et ces plus faibles sont les piliers de soutien de l'Église et du monde entier. C'est-à-dire faire comprendre que nous sommes appelés de devenir nous-mêmes par l'offrande de notre vie, et ce qui est important, c'est en communion avec le Christ, dans l'amour, parce que c'est une histoire d'amour que nous vivons, et ça, je tiens à le préciser, il ne s'agit pas d'une histoire de souffrance. La souffrance, elle est là, Dieu ne l'a jamais voulu, cependant. Il n'a jamais créé la souffrance, nous ne sommes pas dans le dolorisme, voyez-vous, ce n'est pas la souffrance qui arrange notre vie, non, c'est l'amour traversé avec le Christ, au cœur de notre souffrance, à travers l'offrande de notre vie. Et à ce moment-là, le Christ lui-même transfigure en nous tout ce que nous vivons de joyeux comme de douloureux, il le transfigure en grâce et en bénédiction pour l'Église et le monde. C'est ainsi que le plus petit et le plus faible, le souffrant, la personne handicapée, la personne prisonnière dans sa cellule, les parents qui ont souffert le départ d'un petit enfant et les petits-enfants qui ont été martyrisés, qui ont été arrachés au sein de la maman, tout cela sont dans une offrande d'amour. Et ce qui fait qu'ils sont dans ils permettent au Christ, en s'élevant à travers eux, de soutenir cette société qui vit dans les ténèbres et qui vit dans la perdition très souvent. Et voilà comment l'apôtre rétablit son équilibre.
Vous avez un exemple dans votre livre, par exemple, qui est très parlant. C'est un certain Thomas, qui est un enfant malade. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de ce petit, quand vous le rencontrez? Il a 11 ans. Il souffre depuis l'âge de 3 ans de diabète. Et racontez-nous un peu cette histoire et cette entrée dans le monastère invisible de ce garçon.
Oui, ce petit enfant souffrait beaucoup parce qu'il ne pouvait pas vivre comme tous les autres enfants et c'était pour lui très très compliqué. Et un jour, alors que je suis invité à Paris le Monial pour faire un enseignement sur le monastère invisible de Saint-Jean-Paul II, il s'avère qu'il est dans l'assemblée à écouter avec ses parents. Et j'expliquais, justement, tout à l'heure, je vous disais que dans le pilier gauche, des petits-enfants, des saints innocents et des martyrs, les enfants tiennent une clé à la main, et à droite, il y a aussi donc une clé, parce que dans le discernement, j'ai compris que ces personnes, tous ces membres du monastère invisible, sont les serruriers de Dieu, les serruriers de l'invisible. Ils sont comme des clés spirituelles qui, par l'offrande de leur vie au Seigneur, permettent au Christ d'ouvrir des cœurs.
Alors ça on a compris, mais racontez-nous Thomas. Qu'est-ce qui s'est passé pour Thomas ?
Et voilà, justement, si je vous dis cela, c'est parce que Thomas a été très touché par ce que je viens de dire là. Et après ce témoignage, il est venu me voir et il me dit « Dites-moi, Martial, est-ce que moi aussi je pourrais devenir une petite clé spirituelle ?» Et alors je lui explique, je le prends à part, je l'ai amené prier et il a très très bien compris. Je crois qu'il y a vraiment une grâce particulière avec les enfants. Et ce petit, eh bien, il a été transformé par cela. Et bon, quelques temps plus tard, nous nous sommes quittés, et ce sont ses parents qui m'ont écrit en me disant « Mais c'est incroyable, le petit piquait des crises de nerfs chaque fois qu'il se sentait mal, etc. » Et aujourd'hui, il s'est construit dans sa chambre un peu comme un monastère invisible, avec la photo du Sacré-Cœur de Jésus, la Vierge Marie, Jean-Paul II, et quand il sent que cela va mal, plutôt que de piquer une crise de nerfs, il rentre dans sa chambre silencieusement, et nous, on a regardé ce qui se passe, et il est là, les bras étendus, et il prie tout simplement devant ce monastère invisible. En fait, il prie en communion avec le monastère invisible de Jean-Paul II, il ne pique pas sa crise de nerfs, il vit cela dans la paix. Et il le fait pour me soutenir. Alors il pense à moi, il me dit « Je soutiens Martial dans sa mission ». Et là, ça devient quelque chose de formidable parce que il a compris de manière extraordinaire combien ce qu'il vit de difficile peut porter des fruits, peut être fertiles, justement. Et Thérèse de Lisieux, vous la citiez tout à l'heure, elle est un exemple extraordinaire de cela.
Comment fait-on pour rejoindre ce monastère invisible? Je sais pas. Pour finir, avant qu'on fasse une première pause, est-ce qu'il faut vous écrire? Comment est-ce que vous proposez un certain nombre de prières? Quel est un peu l'aspect pratique de ce monastère invisible?
Oui. Alors, on ne propose pas beaucoup de prières. Le but n'est pas d'imposer des prières, parce que nous avons affaire très souvent à des personnes fragiles, en difficulté de santé, et qui n'ont pas la force, souvent, de beaucoup prier. Mais il y a une prière de consécration à Jésus par Marie dans le monastère invisible de Jean-Paul II, qui a reçu l'imprimature de Mgr Dominique Ré, après qu'il ait reconnu canoniquement le monastère invisible. Et cette prière, nous la proposons à toutes les personnes quand elles sont relativement en forme, qu'elles peuvent le faire, et quand elles sont très fatiguées, eh bien, c'est l'esprit qui continue dans sa fidélité. Cette prière continue de s'élever à travers eux par l'esprit qui habite en eux. Voyez-vous, ça, il faut les soulager à ce niveau-là, parce que sinon, si on leur donne des prières à dire régulièrement, très souvent, ils se découragent le jour où ils sont trop fatigués. Voyez, donc ça, je ne le voulais pas. Et ensuite, ils peuvent me contacter. Moi, je peux donner mon numéro de portable, il n'y a pas de problème. Je vous le donne même en ligne, ça ne me gêne pas, parce que ma vocation, c'est de passer beaucoup de temps au téléphone pour accompagner des personnes malades. C'est le 06.
Attends, vous le donnerez peut-être juste après. J'avais une dernière question. Est-ce que vous pourriez nous donner peut-être quelques fioriti de l'efficacité de cette prière d'intercession? Parce qu'on peut avoir foi dans l'intuition que vous avez reçue, la manière dont vous l'expliquez, et en même temps avoir du mal à toucher du doigt ou à comprendre avec le cœur et avec la tête la force de la prière d'intercession. Est-ce que vous auriez des exemples, des fruits que porte cette prière de tous ces gens qui s'associent à ce monastère invisible?
Écoutez, la première chose qui est remarquable, c'est que des personnes qui vivent cet état d'esprit, même s'ils vivent dans la souffrance, ce sont cependant toujours l'amour et la joie qui ont le dernier mot. Ces personnes retrouvent la joie de vivre. Il y a des personnes qui auraient pu souhaiter, par exemple, l'euthanasie, et qui, en découvrant le monastère invisible de Jean-Paul II, en découvrant que ce qu'ils vivent peut être fertile dans une histoire d'amour qui les dépasse même, eh bien, ils retrouvent la joie de vivre au cœur de cette souffrance qu'ils traversent. Parce que la souffrance est là, mais voilà, quand elle est traversée avec le Christ, et quand on demande au Christ cette force de l'amour qu'il a animé lui jusqu'au bout pour aller jusqu'à mourir sur le bois de la croix, eh bien c'est cette force force de l'amour du Christ qui nous est donnée. Et à ce moment-là, il nous est donné de traverser, de savourer la joie et la paix du crucifié ressuscité qui traverse avec nous cette souffrance et avec lequel nous traversons sa souffrance aussi.
Eh ben merci beaucoup Martial Caudou, je rappelle le titre de votre ouvrage et puis vous allez donner votre numéro de téléphone. Martial Caudou, Le monastère invisible de Jean-Paul II, paru aux éditions Salvator. Et donc si on veut vous joindre, le numéro de téléphone est le
06 76 74 75 92. Et vous pouvez également demander à l'évêché au diocèse de Toulon.
Peut-être pouvez-vous le redonner une deuxième fois.
06 76 74 75 92.
Merci Martial Caudou. On fait une première pause et puis on va retrouver Alain Noël pour un autre monastère invisible.
présence.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Que sont les monastères invisibles ? C'est donc, pour rappel, le thème de l'émission Vivante Église de ce jour. Ce matin, nous étions donc en début d'émission avec Martial Caudou, qui est diacre du diocèse de Toulon. Pour rappel, auteur d'un ouvrage, Le Monastère Invisible de Jean-Paul II, paru aux éditions Salvator, où il parle de cette intuition divine qu'il a reçue et accompagnée par l'Église, entre autres par son évêque. Il a mis en œuvre donc ce monastère invisible, en tout cas cet appel à cette communion de prière. Et nous sommes maintenant avec Alain Noël, laïc consacré et responsable, lui, d'un autre monastère invisible, qui est aussi appelé la Fraternité Sainte-Croix. Bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Je vais aussi vous présenter, mais comme Martial Caudou, voilà, vous êtes une personnalité, donc vous compléterez peut-être cette courte présentation. Vous avez été éditeur, entre autres, des presses de la Renaissance, voilà, maison d'édition religieuse assez connue. Vous êtes marié et depuis quelques années, vous êtes donc responsable de cette fraternité Sainte-Croix qui est physiquement basée à Étampes, dans l'Essonne, accompagnée évidemment par l'Église. Il fut un temps par Monseigneur Dubost et aujourd'hui Monseigneur Pansard, évêque de Corbeil-Essonne. Que diriez-vous d'autre peut-être sur vous, si ce n'est le complément pourrait être votre affinité pour la spiritualité carmélitaine en introduction de votre intervention? Ça peut être une bonne chose, non?
Oui, c'est une très bonne chose, Emmanuel. Disons que la particularité, c'est que nous fêtons notre 10e année de vie monastique en couple, parce que j'ai quitté la présidence des presses de la Renaissance que j'avais fondée, parce qu'on avait eu un appel à 25 ans, que lorsque nos enfants seraient grands, on entrerait dans la vie monastique. Voilà, donc on ne s'est pas séparés pour le faire. Notre évêque nous a confié une grande maison qui appartenait au diocèse pour y faire un lieu de vie de type monastique, mais en couple, et un lieu de formation à la vie spirituelle. Et c'est comme cela que nous avons fondé le Monastère Invisible, entre autres sur Internet.
Alors, j'aimerais qu'on commence votre intervention peut-être en faisant écho à mon introduction. Quand je disais qu'un certain nombre de personnes vivent en étant brûlées de grands désirs, en ayant le désir de changer le monde, de vouloir venir en secours des malheureux qui se trouvent autour d'eux, mais pas seulement en France et ailleurs plus loin. Bref, des âmes peut-être qui ont un appel particulier ou qui seraient des âmes consacrées. Vous avez une expression comme ça dans l'une de vos interventions télévisées, en l'occurrence c'était sur KTO, un cœur qui écoute. Vous dites que Dieu a un problème, il cherche des adorateurs en esprit et en vérité, et en fait il n'y a pas toujours grand monde au bout de la ligne. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette petite remarque que vous avez faite une fois ou l'autre?
Le problème que rencontre Dieu, c'est qu'il appelle, mais il y a peu de gens disponibles, hein. Jésus à parler de la parabole des invités au festin. Bon, il y en a qui avaient acheté des bœufs, il y en a qui avaient acheté, on dirait aujourd'hui, une voiture, un appartement, voilà, et on répond pas à l'appel. Donc quand Dieu trouve quelqu'un de disponible, il lui file très très rapidement beaucoup de boulot, et donc voilà, on a essayé, je sais pas pourquoi d'ailleurs, on sait jamais vraiment qui nous habite au plus profond de nous-mêmes et pourquoi ça nous habite, mais on a toujours voulu, mon épouse et moi, rester totalement disponibles. C'est pour ça que je dis que j'ai toujours été un intérimaire de Dieu, c'est-à-dire je travaille pour une agence céleste qui s'appelle God Power. C'est voilà. L'équivalent de manpower sur la Terre. Voilà.
Vous aviez cette expression aussi dans cette même émission. Alors qu'est-ce que vous diriez aux auditeurs dans ces cas-là qui sont familiers de cette émission et qui nous écoutent ce matin, qui sentent qu'ils sont brûlés par de grands désirs et qui peut-être ne trouvent pas toujours à épanouir ses désirs, ou en tout cas, je ne sais pas comment dire, à les accomplir? Ouais. Est-ce que le monastère invisible, c'est d'une certaine manière une réponse à cet appel immense du cœur?
Le monastère invisible est parti, entre autres, d'un constat, c'est que la vie spirituelle, c'est-à-dire la vie mystique, c'est-à-dire cette vie qui nous appelle à une union plus grande, la plus grande possible avec Dieu, selon la volonté de Dieu lui-même, eh bien, était quelque chose de complètement désaffecté en France. C'est-à-dire, je parle de la France, hein, parce que je ne vais pas rentrer dans l'Europe, le monde, je parle de ce que je connais un peu.
Ça nous suffira, allez-y.
Mais la vie mystique, de toute façon, la vie mystique a toujours été quelque part un peu déconsidérée parce que même au temps, on est dans la spiritualité carmélitaine, même au temps de Thérèse d'Avila a failli avoir d'énormes problèmes parce que bon, sa vie mystique était riche en phénomènes. Donc, elle a failli avoir de graves problèmes avec ses écrits et sa vie avec l'Inquisition. Mais il y a une intellectualisation à outrance de la foi au détriment d'une forme de piété, de vie spirituelle, de vie mystique, de vie d'union avec Dieu. Il y a une méfiance qui a toujours existé d'ailleurs, hein, mais qui s'est accrue dans des pays cartésiens comme les nôtres. Et donc, ceux qui ont une aspiration, un grand désir que vous évoquez, Emmanuel, eh bien, ces personnes-là ont du mal de trouver du répondant, ont du mal à trouver des formations, alors qu'il en existe, hein, mais elles ne sont quasiment pas proposées, ou en tout cas, elles ne parviennent pas jusqu'à ces personnes. Donc, c'est un peu pour régler cette question-là, en tout cas, apporter une contribution au fait qu'on se forme, comment on fait, hein, dans l'introduction du monastère invisible, si on va sur le site, comment on fait pour vivre dans ce monde alors qu'on n'est plus de ce monde, nous dit Jésus. Comment on fait pour être complètement dedans tout en n'étant pas pris par le monde?
Alors peut-être on y reviendra justement et puis on verra les formations que vous proposez, toutes les offres qui sont les vôtres. J'avais une autre question sur vous. Peut-être qu'il peut y avoir un effet d'identification de certains auditeurs, ça peut les aider à se mettre en route, en tout cas les conforter, les soutenir. Vous avez une autre expression, vous dites que vous avez longtemps vécu comme un moine intérieur dans un monastère invisible et que quelque part du coup ce monastère invisible aujourd'hui dont vous avez la responsabilité avec votre épouse est un prolongement assez naturel. On imagine qu'en étant directeur d'une maison d'édition, on était bien occupé. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment vous expliciteriez cette expression comme des moines intérieurs dans un monastère invisible?
C'est-à-dire, tous autant qu'on est, il arrive qu'on rencontre des phrases qui sont comme des indicateurs, comme des orientations profondes de notre vie. Elles ne sont pas de nous, mais quand on les entend, on sent que ça vibre au plus profond de nous-mêmes. Alors un jour, quelqu'un m'a dit « Vivez en ce monde comme les moines d'un monastère ou d'un couvent », c'était à l'époque un couvent invisible. Et j'ai toujours, en fin de compte, dans ma vie professionnelle, que ce soit dans la banque, dans la presse, dans l'édition, j'ai toujours vécu avec ce sentiment d'avoir autour de moi une clôture qui faisait que j'étais comme dans la vie monastique, quoi. Et alors, c'est vraiment quelque chose de très très surprenant qui m'a accompagné toute ma vie.
C'est-à-dire qu'il y avait une forme de quoi, de vous consciemment, vous étiez dans une forme de mise à distance en fait de la réalité, comme une forme de clôture intérieure, ou en l'occurrence vous considérez que c'était comme une grâce qui vous était donnée. Enfin, c'est peut-être pas le lieu d'être trop impudique, mais est-ce que vous pourriez juste un tout petit peu préciser?
Oui, c'était le sentiment de me balader. Un peu, je vais prendre une image très triviale, mais un peu comme quand on va dans la mer avec une bouée canard, quoi, pour ne pas, au moment où on est fatigué et qu'on n'a plus envie de nager, et ben voilà, qu'on se laisse porter. Et ben, j'avais ma clôture monastique autour de moi qui me donnait toujours, en tout cas quand j'en sortais pas, qui me donnait toujours ce recul, cette profondeur de silence et ce regard sur le monde, parce que nous sommes appelés à vivre pleinement dans le monde, hein, c'est ça la difficulté. Mais tout en ayant un retrait qui n'est pas un désengagement, mais quelque chose qui permet de s'engager là où on a besoin de vraiment s'engager et pas se faire piéger par les vanités, vanité des vanités, toutes les vanités, les vanités de ce monde et les glorioles de ce monde.
Vous avez une autre expression où vous dites « nous vivons comme des mendiants assis sur un trésor ». Donc on sent que votre monastère invisible, on va dire sa patte, c'est vraiment de partager au plus grand nombre les trésors de la vie spirituelle de l'Église et d'introduire à cette vie mystique et de nourrir cette vie mystique. Sur votre site, vous dites que vous proposez donc des courtes méditations ou explicitations des saints du jour, des lectures bibliques, des messages une fois par semaine, et puis donc un certain nombre de formations spirituelle. J'aimerais que vous nous en présentiez l'une ou l'autre pour nous mettre en bouche et donner envie aux auditeurs d'aller plus loin. Entre autres, j'en ai vu une, initiation à l'exercice de la présence de Dieu. Est-ce que vous pourriez nous parler de cette initiation ?
Oui, alors cette initiation se fait dans le cadre, en lien avec le monastère invisible, mais dans le cadre de ce que nous a demandé de fonder notre évêque, c'est-à-dire une école de prière et de méditation, parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait besoin de se former, parce que beaucoup de chrétiens, quand ils voulaient se former à la... parce qu'ils sentaient un appel intérieur, bah beaucoup vont faire du yoga, beaucoup se tournent vers des systèmes de méditation qui ne sont pas chrétiens pour deux ronds. Donc, il nous a demandé de réinjecter, enfin, du christianisme et de la pratique mystique dans ces demandes qui émanent de beaucoup de gens aujourd'hui. Alors, l'exercice de la présence de Dieu, vu que nous sommes de spiritualité carmélitaine, a été promu, on va dire, dans le monde entier, et j'ai envie de dire malheureusement très peu en France, mais gros succès dans le monde entier par Laurent de la Résurrection.
Oui, on a fait une émission. On a fait une émission sur lui, mais ça fait longtemps. Donc allez-y, ça nous fera du bien de le réentendre.
Donc Laurent de la Résurrection, qui est un frère convert, qui était le cuisinier du monastère carmélitain de Paris, et qui a utilisé cet exercice de la présence de Dieu, c'est-à-dire donc de en gros, si je veux vraiment résumer à outrance, quand à l'Eucharistie on nous dit par lui, avec lui et en lui, on a là le résumé le plus succinct de ce que doit être notre vie, c'est-à-dire tous nos actes doivent être posés par lui, avec lui et en lui. Donc c'est s'entraîner à faire en sorte que tout soit fait avec le Christ, dans le Christ et pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire même quand on prépare un sandwich, même quand on, frère Laurent de la Résurrection dit « Je rends gloire à Dieu en tournant ma petite omelette dans ma poêle ». Donc arriver, voyez, à cette présence, à vivre constamment dans la présence de Dieu, non pas dans le sentiment de la présence de Dieu, mais dans un acte volontaire qui nous met dans le fait que nos actes, nous les orientons pas uniquement vers ce que nous faisons, nous les orientons vers Dieu, pour la gloire de Dieu.
Alors, est-ce que vous pouvez expliciter, par exemple, quand on suit une initiation via votre monastère invisible, comment ça se passe ? On s'inscrit à cette école d'exercice de la présence de Dieu, si on peut pas physiquement être présent à cette école de prière que vous décrivez ?
Alors ces exercices-là, justement, se demandent la présence.
D'accord, c'est le contre-exemple.
Ça se fait à Étampes, mais alors cette année, au niveau du monastère invisible et de l'école de prière, ce que l'on propose, et ça marche bien, c'est de se déplacer en région pour y faire les formations. Donc cette année, c'est très particulier, on a tout un programme de formation à la méditation, à l'oraison, à la lectio divina, à l'exercice de la présence de Dieu, etc., etc. Mais nous nous déplaçons en région, s'il y a un groupe de 12, 15, 20 personnes qui veulent une formation, ben nous venons, et alors on est allé dans le Gard, on est allé un peu partout.
Alors si on prend une autre formation, par exemple sur le combat spirituel, pour le coup, donc si on la suit à distance, comment ça se passe en fait ? Vous envoyez des topos, est-ce que vous pouvez expliquer concrètement ?
Non, les formations se font vraiment à Étampes, en tant que telles. Par contre, nous faisons des enseignements spirituels sur chaque semaine avec des exercices. Tous les samedis, on peut s'inscrire pour recevoir un enseignement hebdomadaire de formation à la vie spirituelle. Là, mettons, je termine demain 12 semaines de formation sur les pratiques de la vie spirituelle.
Pour finir, en se baladant sur votre site internet, on voit qu'il y a une partie qui s'appelle la clôture, qui est réservée donc à ceux qui probablement font partie, ont choisi de faire partie plus qu'à la faveur d'un enseignement de ce monastère invisible. Expliquez-nous peut-être ce deuxième passage. Comment est-ce qu'on devient moine intérieur et en communion avec ce monastère invisible? Qui sont ceux qui font partie qui peuvent passer cette clôture?
Voilà. Alors, ce sont des personnes qui s'engagent On a un certain nombre de propositions de prières quotidiennes, soit de faire les lourdes, soit de faire sexte, soit de faire les vêpres, soit de faire un chapelet, prier pour les intentions qui nous sont confiées. On a énormément d'intentions de prière qui nous sont confiées. Alors donc, les personnes s'engagent pour un temps donné à prier selon les engagements qu'ils ont pris. Mais en communion, moi, tous les matins, quand nous faisons les laudes, nous prions pour tous les membres du monastère invisible et pour tous ceux qui se sont confiés au monastère invisible. Donc, on s'inscrit, on coche ce sur quoi on s'engage et on s'engage au maximum pour un an. Il y a des gens maintenant qui renouvellent depuis 7-8 ans leur engagement.
Et ça fait une communauté de prière de combien de personnes, du coup, aujourd'hui?
Alors, c'est très variable parce que il y en a qui sortent et puis il y en a qui reviennent. En gros, on est à peu près 200 dans le monde. Parce que, alors, la merveille d'Internet, c'est qu'il y a des gens au Mexique, au Japon, aux Swazilandes. Enfin, on découvre en réalité le monde. Mais le plus gros, c'est quand même la France, la Belgique, la Suisse, le Canada, enfin, les pays francophones et beaucoup l'Afrique aussi.
Eh ben, merci beaucoup Alain Noël d'être venu au micro de Vivante Église pour ce monastère invisible donc international. Ça fait quand même du monde, 200 personnes, hein. 200 moines, c'est pas rien. Je sais pas s'il y a beaucoup d'abbayes en France qui ont 200 moines aujourd'hui. Pour finir, quelques informations pratiques. Donc si on veut se joindre à cette aventure ou en tout cas en profiter, www.monastère-invisible.com, c'est bien ça?
Oui, c'est tout à fait ça. De toute façon, si on tape Monastère Invisible sur Google, on apparaît tout de suite, donc il n'y a pas de problème. Autrement, Emmanuel, quand même, si je vous l'ai pas dit, mais j'ai sorti un ouvrage qui reprécise un peu tout ça, qui s'appelle L'ADN du chrétien chez MAM.
Voilà, l'ADN du chrétien.
ADN comme du chrétien. Chez MAM.
ADN des chrétiens aux éditions MAM, M-A-M-E. Merci beaucoup. Je rappelle le titre aussi de l'ouvrage de Martial Caudou, Le monastère invisible de Jean-Paul II, paru aux éditions Salvator. Merci à tous mes invités. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.